Allez, puisque l'on parle biodiversité à 14h04 sur France Inter, c'est l'heure de rejoindre Denis Chessou. Bonjour.
Mais oui, chère Clotilde.
Alors, CO2, mon amour, est de sortie.
Ah bah, on va essayer de ramer pour vous expliquer ce qu'est la biodiversité. Nous sommes effectivement de sortie dans ce lieu superbe que vous connaissez, qui est donc la grande galerie donc du Muséum d'Histoire Naturelle.
Ouais.
C'est extraordinaire. Et puis, comme il y a ce mot aussi donc d'histoire naturelle, on va essayer de raconter des histoires, nous aussi, donc avec nos invités. Donc, on va parler de nature, de cette biodiversité. Et vous avez raison, parce que les deux tiers des Européens ne savent pas trop ce que c'est. Donc, on va essayer quand même autour de la table de vous distiller quand même un petit peu ce savoir avec nos invités. Merci, chère Clotilde.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, enfin en tout cas qui essaie, donc CO2 mon amour, avec aujourd'hui à la technique Pierre Quintard, Pascal Baudin, Tanguy Le Corneux et Jean-Marc Clos. Assisté de Marion Le Lay et de Jean-Christophe Pinaza, c'est Fabrice L'Aigle qui cette semaine réalise l'émission. Alors, sous l'œil bienveillant de Buffon, de Lamarck, de Linné, de Cuvier et ceux que j'oublie, donc de très grands scientifiques qui, petits, n'ont pas séché leur cours de SVT, enfin quoique, eh bien, nous vous accueillons donc dans cette fête de la nature pour un week-end en compagnie de nos amis les bêtes, les plantes, toutes ces créatures qui n'ont pas encore de compte Facebook, et non, et que l'on rencontre plutôt dans les prairies, les forêts, les parcs et les jardins. Avec en prime quand même du soleil, hein, on n'en a pas vu beaucoup dans nos contrées depuis la fin de l'hiver. La fin de l'hiver, je vous le rappelle, c'était la semaine dernière. Et donc, fête de la nature et aussi, avec ce vilain mot, enfin le mot qu'on ne connaît pas trop, vous l'avez dit Clotilde, journée de la biodiversité que nous fêtons donc ici avec vous, dans la grande galerie de l'évolution du Muséum d'Histoire Naturelle, parmi nos cousins à poil, à plume et autres gagnants du concours Lépine de la biodiversité du monde animal. Et oui, je vous rappelle les règles du jeu. Vous prenez un papier et un crayon, et puis vous me dessinez pas forcément un mouton, mais quelque chose avec un bec, deux yeux, des ailes, des nageoires ou des pattes, c'est comme vous voulez. Et avec un peu de chance, eh bien vous aurez fait le portrait de l'un de nos contemporains exposés ici autour de nous. Sauf que l'origine des espèces, quoi qu'en disent les fous furieux créationnistes, ce n'est pas un concours de dessin. Comme le raconte assez bien Darwin quand même, si du tigre au calamar géant, nous avons tous un petit air de famille sur cette planète, eh bien c'est que nous sommes les héritiers des colonies de bactéries qui grouillaient dans les océans il y a quelques milliards d'années. Alors rassurez-vous, tout ça c'était avant les forages en eau profonde, avant les marées noires et les apéros géants organisés par les majors du pétrole, incapables de consommer les profits à deux chiffres avec modération. Donc chez Total, Exxon, BP, voyez-vous, après un demi-siècle de catastrophes en mer, on n'a toujours pas compris que l'abus de cocktails à base de pétrole, d'eau salée, de dispersants chimiques était dangereux pour la santé des pélicans, des crevettes, des poissons, des pêcheurs, des retraités qui peuplent les côtes du golfe du Mexique et d'ailleurs. Dans un demi-siècle, d'ailleurs, nous dit-on, il n'y aura plus besoin de payer les retraites. Bon, eh ben c'est parfait, il n'y aura plus non plus de poissons dans les océans, à commencer par les thons rouges que nous entêtons à pêcher en pleine période de reproduction. Et oui, c'est en ce moment. Alors justement, après les poissons carrés et les crabes en bâtonnet, la Commission européenne se proposait cette semaine de nous faire avaler le bloc de bœuf reconstitué. Ça, vous imaginez donc un aggloméré de morceaux collés à la thrombine, c'est-à-dire une enzyme issue du sang animal. Et on va remercier cette fois-ci le Parlement européen qui a mis son veto et qui nous épargne la politique du n'importe quoi pourvu que ce soit moins cher de l'industrie alimentaire. Dernier épisode qui oppose les rois de la finance éthique au reste de la planète, et c'était à Cannes la semaine dernière. Olivier Stone nous expliquait que l'argent ne dort jamais. Eh bien, chers amis, j'ai une bonne nouvelle. La nature ne dort jamais non plus. Et vous, public aujourd'hui avec nous du Muséum également. Bonjour à tous. Alors des invités bien sûr autour de cette table, je vous les présenter au fur et à mesure, mais j'ai commencé par François Le Tourneux qui est le président de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature et puis aussi le président de cette fête de la nature, j'allais dire dans cette grande mutuelle qu'est la nature, parce que bien évidemment il y a la loi de la jungle que nous connaissons, l'élimination des plus faibles, il y a aussi de la coopération, il y a du commensalisme, il y a du mutualisme et puis il y a aussi de la connaissance dont on a besoin. François Le Tourneux, c'est aussi le but de la fête de la nature. Je disais tout à l'heure que c'est bien quand on raconte des histoires, ben c'est aussi ce que l'on fait entre dans cette fête de la nature.
Oui, la biodiversité, c'est très important d'en parler parce que c'est toute la connaissance, c'est toute la compréhension. Mais après tout, la nature, c'est bien aussi. La nature, c'est tout ça, plus le plaisir, le bonheur d'être dedans, le bonheur d'être ensemble. Et c'est notre fête pour la Journée mondiale de la biodiversité, ça tombe bien. Et on a explosé les compteurs, plus de 4000 manifestations partout en France. Mmh. Depuis ceux qui sont allés hier soir à la nuit voir pondre les tortues vertes en Guyane, jusqu'à ceux qui sont ici dans le Jardin des Plantes en train d'apprendre à planter des arbres au stand de l'Office des Forêts ou qui sont en train de s'émerveiller de la du programme de reconstitution de la mangrove au Sénégal, lancé par une association extraordinairement dynamique qui s'appelle Océanium. Alors la fête de la nature, c'est notre Nature Pride, c'est notre fierté naturaliste.
Bien sûr, oui, oui.
Et on va être, je pense, beaucoup plus que le million de visiteurs que nous escomptions, puisque nous sommes déjà à 650 000. Évidemment, ça sera moins télégénique que la manifestation de demain sur les Champs-Élysées, mais on est partout sur le territoire. Voilà. C'est pas seulement un happening parisien. C'est une manifestation dans laquelle tout le monde près de chez soi peut se reconnaître. Que tous les gens qui chaque jour fabriquent de la nature, pas forcément avec des pesticides pour une fois, que tous ceux qui fabriquent de la nature en soient fiers, le montrent à leurs voisins et leur donnent envie d'y retourner.
Alors un homme comme Éric Orsenna, qui est aussi le parrain de cette manifestation, on disait dans le numéro de mai de Terre Sauvage, qui est aussi partenaire et qui est aussi notre partenaire, il disait que c'était se promener dans une encyclopédie géante. Et puis il disait aussi, depuis que je connais un peu mieux la nature, je crois de moins en moins aux lignes et de plus en plus au cercle, parce que c'est un mouvement qui ne s'arrête pas. Nous sommes un élément du cercle.
Oui, on a toujours tendance à considérer que la nature c'est une collection de plantes et d'animaux. Et ici, la première vision qui s'offre à nous dans la grande galerie de l'évolution, c'est bien une collection d'animaux présentés de façon éblouissante. Mais ça bouge tout le temps, la nature. C'est pas un état, c'est un mouvement, c'est une vie. Et d'autre part, c'est pas seulement les plantes et les animaux, c'est peut-être surtout tout ce qui les relie entre eux, tout ce qui fait que qu'ils évoluent, tout ce qui fait qu'ils bougent, tout ce qui fait qu'ils sont en train de constituer ce grand ensemble vivant, cette grande unité vivante qu'est la Terre. Et nous sommes dedans. Il y a 10 000 ans qu'on a essayé de se convaincre qu'on était dehors. Avec le néolithique, on a commencé à se dire que la nature c'était mieux quand on la chassait loin de nos champs et quand on essayait d'éviter qu'elle bouffe nos moutons ou nos. Eh bien non, la nature, on est dedans jusqu'au cou. On a 10 fois plus de cellules non humaines que de cellules humaines. On est un écosystème à nous tout seuls. On vivrait pas si on mangeait pas de la biodiversité. Donc, recommençons à nous rendre compte que c'est chez nous, quoi. Qu'on est chez nous et que c'est un peu idiot de salir chez nous.
Alors, Emmanuel Grunemann est aussi autour de cette table. Cette femme a fait une thèse en primatologie. Vous êtes aussi écrivain. Vous venez de sortir un ouvrage qui s'appelle Demain, seul au monde, l'homme sans la biodiversité, édité chez Kalman Levy. On reviendra sur ce titre. Je veux dire que comme vous habitez aussi dans Lyon, parce que vous avez fait pratiquement tous les continents, mais là vous êtes venu un peu chercher un peu de vraie biodiversité, même par rapport à votre département.
Oui, c'est vrai que quand on voit que dans les petits villages au fin fond de la campagne, on continue à désherber avec moult pesticides dans les rues. C'est même des petites ruelles, on chasse les trois brins d'herbe qui ont le malheur de s'immiscer. Et sachant en plus que l'eau est polluée dans le village à côté de celui où j'habite, l'eau est pas potable, là on se pose quand même des questions.
Alors la biodiversité, revenons vraiment sur ce mot. C'est vrai qu'il est technique, c'est vrai qu'il n'est pas joli. Les deux tiers des Européens ne savent pas très bien ce que c'est. Dans le meilleur des cas, on va vous dire la nature. Donc on a bien compris que ça ne se résumait pas à une simple addition d'espèces, d'entités. Qu'est-ce qu'il faut bien comprendre à travers ça? Et surtout, quelle est notre place dans cette affaire?
C'est vrai que ça paraît un peu être un gros mot, parce que bon, c'est un peu... De toute façon, c'est un terme qui est très récent, qui date des années 80. Et bon, qui englobe en fait tout bêtement ce qu'on appelait autrefois la nature. Mmh. Et c'est à la fois cette diversité spécifique, donc c'est la collection d'espèces qu'on trouve dans un milieu donné. Et c'est vrai que les gens qui ont entendu parler de biodiversité pensent que c'est uniquement cette collection d'espèces. Mais c'est aussi deux autres choses. La diversité génétique à l'intérieur d'une même espèce qui est cruciale. Et ensuite ce qu'on appelle la diversité écosystémique et qui est probablement l'aspect le plus important dans le sens où c'est toutes les relations que les espèces tissent entre elles et avec leur milieu. Et ça, c'est absolument crucial. Et on se rend compte à travers plein d'exemples que tout est intimement lié. Et quand on enlève un élément, ça pose de gros problèmes. Par exemple, il y a c'est en RDC, il y a un lac qui s'appelle le lac Édouard.
Alors, de République démocratique du Congo.
Voilà, oui. Qui n'a de démocratique que le nom. Et dans ce lac vivaient énormément d'hippopotames et on en comptait 9600 dans les années 70. Et le dernier recensement en 2005 a compté que 683 petits hippopotames qui barbotaient dans les eaux du lac Édouard, soit une réduction des effectifs de plus de 90%. Pourquoi ? Parce qu'ils sont chassés pour l'ivoire, pour le trafic d'ivoire. Sauf que tout ça, ça a posé un gros problème puisque l'hippopotame est herbivore. Donc il va la nuit se goinfrer pour chaque hippopotame de 40 kilos de végétaux. Et le jour, installé tranquillement dans les eaux du lac, qui rejette environ 25 kilos de crottin. Et ce crottin alimente toute une chaîne alimentaire du plancton et évidemment des petits poissons et notamment le tilapia. Et le tilapia était la base de la nourriture en fait de toutes les populations qui vivaient autour du lac Édouard. Et donc aujourd'hui, se pose un gros problème d'alimentation et de survie pour ces populations humaines.
Donc
voilà.
Ce qu'on entend, c'est une espèce de mikado. Quand on retire, ça c'est pour reprendre l'expression de Jacques Weber, mais lorsqu'on retire un bout du mikado, ça déséquilibre l'ensemble.
Tout à fait. Et on peut parfois ne pas s'en apercevoir parce que ça peut être assez subtil, mais les conséquences peuvent être dramatiques. On le voit aussi avec le syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles et la chute des pollinisateurs. Et là, c'est une menace terrible qui pèse sur l'alimentation mondiale.
Alors, un autre de nos invité autour de cette table, c'est Dominique Bourg qui est philosophe, qui a été membre de la commission COPINS, donc qui a préparé la charte de l'environnement. Vous appartenez aussi au comité de veille scientifique de la Fondation Nicolas Hulot, puis vous êtes professeur à l'Université de Lausanne, donc en Suisse, à la faculté de géosciences et de l'environnement. Alors ça, vous pensez vous cette affaire depuis pas mal de temps. Et puis, j'ai presque envie de vous demander pourquoi est-ce qu'on doit décréter une année de la biodiversité, une fête de la nature pour s'intéresser à la nature ?
C'est une sorte de symptôme, ça veut donc dire que de manière générale, la nature est absente, est oubliée puisqu'il faut la rappeler un jour par an. Alors c'est à la fois l'occasion d'une série d'initiatives qui sont très intéressantes, mais comme symptôme, c'est quand même assez curieux. Parce que normalement, la nature, c'est ce qui devrait nous entourer, être en permanence présent.
On a aussi les journées de la femme, donc c'est très très inquiétant.
Oui. Alors l'absurdité est à peu près égale, voilà, oui. mais bon.
Alors donc il y a c'est quand même ces notions de ressources naturelles. Rappelez-nous quand même quels sont les grands enjeux aujourd'hui que vous voyez et est-ce que nous sommes dans un changement de civilisation ?
À mes yeux oui, mais pour rappeler les enjeux, disons de façon très simple, on se livre aujourd'hui, disons depuis l'après-guerre, après Deuxième Guerre mondiale, à une espèce de casse généralisée. On vient de parler de biodiversité, effectivement on pense que le rythme s'est accéléré de 1000 à 10 000 fois et comme pour les hippopotames de notre propre fait, si je prends alors aussi un autre exemple aquatique, il y a une trentaine d'années, la prise moyenne des pêches était de 800 grammes, c'est 150 grammes aujourd'hui. Donc dans quelques temps on peut se demander si on a encore des poissons dans les mers et si on finira plus par n'y trouver que des méduses, ce qui n'est pas tout à fait quand même génial.
Non.
Et donc, si on regarde les ressources fossiles, bien, on sait au moins que pour le pétrole, dans la décennie qui vient, on est sans doute déjà un peu au sommet de la courbe, elle va redescendre, ça posera quand même un certain nombre de problèmes. Pour le gaz, même s'il y a les schistes maintenant, ça finira aussi par arriver. Pour le charbon aussi. Si vous regardez les minéraux, et c'est pas mieux, si on fait le recensement de tous les minéraux, donc, qu'on exploite aujourd'hui, tous les gisements exploités, tous les gisements connus, bien la plupart du temps, c'est à une, deux, trois, jusqu'à huit décennies, ils seront épuisés. Donc ça ne veut pas dire que nous n'aurons plus de minéraux, mais nous devrons aller les chercher. Beaucoup plus loin, beaucoup plus profond, sans savoir vraiment où les trouver, et avec une demande d'énergie. Si vous regardez, on consomme à peu près la moitié de l'eau douce disponible par an. Et comme vous le savez, la végétation, pour traiter une molécule de carbone, a besoin de deux molécules d'eau. Donc c'est pas tout à fait génial. Ce qui fait que l'enrichissement risque de resserrer nos réserves. Donc partout, on s'est livré à une véritable razzia planétaire. Et c'est d'une absurdité totale. C'est tout aussi absurde que cette histoire d'hippopotame.
Alors on va voir ce qui, justement, est en train d'évoluer. Parce qu'il y a quand même, au-delà de la fameuse prise de conscience, comme on dit, qui n'est pas donc forcément un passage à l'action, il y a aussi des actions qui se font. Mais ce déséquilibre homme-nature, pour vous, il date de quand ?
Alors, moi, j'aime beaucoup me référer à celui que je tiens pour un très grand penseur, qui est Philippe Descola, qui, il y a quelques années, par de la nature et culture, nous a livré une espèce de grammaire des cultures, ce qu'il appelle son carré ontologique, en montrant qu'il y avait, disons, quatre façons d'accommoder nos relations avec l'ensemble de la nature. Soit on peut imaginer que finalement, en partant de notre corps, d'un côté notre esprit de l'autre, on peut imaginer que eh bien, nous partageons tous le même esprit, mais qu'on se distingue en quelque sorte presque par ruse, par nos corps, c'est l'animisme. On peut imaginer que finalement, ben non, tout est dans tout et tout est réciproque, c'est un peu le totémisme, c'est-à-dire que nous sommes aussi bien par notre corps que par notre pensée identique à tout l'ensemble du monde naturel. Puis on peut au contraire penser que finalement, ben non, qu'il y a des petits îlots d'identité. Par exemple, on va imaginer que lorsque je suis né, un astre est né, c'est une sorte de narcissisme terrible. Bon, ça c'est l'analogisme. Et puis alors, il y a une autre culture, effectivement, qu'il appelle lui le naturalisme, c'est une forme de dualisme. Et là, nous, ça débouche, si vous voulez, sur une idée de la nature assez abrupte, selon laquelle, finalement, l'espèce humaine serait la seule espèce qui aurait en partage la pensée, les sentiments, la faculté de se représenter, de s'engager, etc. Et nous serions donc complètement hors du monde, en quelque sorte. Oui. Nous serions dessus, un peu comme si on nous se mettait tout au devant
de tous les
animaux qu'on voit ici. Alors, si on est vraiment devant, bien, on peut les oublier et on n'en a plus rien à faire. Alors ça, effectivement, ça a été au cœur de la culture occidentale. Alors en soi, ça n'aboutit pas nécessairement à une casse en règle de la nature, mais sans doute que c'était une des conditions qui nous a amené à ce type d'attitude qu'on connaît de façon très très forte. Si on reprend un grand livre, L'homme et la nature de George Perkins Marsh, publié en 1864, eh bien lui-même avait dit, voilà, nous nous considérons comme une espèce extérieure. En fait, on participe de la transcendance divine et on n'a rien à voir avec le reste des animaux. Alors, c'est quelque chose qui nous est venu du christianisme, mais qui n'emporte pas la totalité du christianisme. On peut l'interpréter autrement. Quelqu'un comme Lin White, lui, se tournait par exemple vers Saint François, parlait de son frère Soleil, frère Renard, que sais-je. Bon, mais disons que cette manière de concevoir, qu'on a tout particulièrement développée dans la partie occidentale de l'Europe, est quelque chose qui a été très destructeur et qui continue à l'être.
Alors, on va poursuivre évidemment ce voyage à travers les différentes représentations, donc avec nos différents invités. Laurent Piermont est aussi avec nous. Il vient d'écrire « Agir avec la nature ». On va lui donner la parole dans quelques instants. Un homme qui est à la fois docteur en écologie. Puis il va nous dire aussi quelles sont les pistes d'action quand même qui sont possibles dans cette histoire-là. Nous allons débuter en musique grâce à Muriel Pérez avec Des Palmas. Tiens.
C'est de mon amour. C'est cette petite émission qui respire sur France Inter.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Mon amour ne te vexe pas. Si tu m'appelles, je ne répondrai pas. On ne me laisse pas le choix. Mon cœur ne bat plus pour toi. J'ai lutté mais rien à faire. Ses yeux, sa bouche, je ne touchais plus terre. Mes épaules ont cédé sous le poids. Mon cœur ne bat plus pour toi, non. Mon cœur ne bat plus pour toi. Change, mais pourquoi te mentir? Elle fait ce qu'elle veut de moi. Mon cœur ne bat plus pour toi. Mon cœur ne bat plus pour toi. Mon cœur ne veut plus battre pour toi. Coupable et victime. petit mal à faim. Mon cœur ne veut plus battre pour toi. Te vexe pas. Si tu m'appelles, je ne répondrai pas. Elle fait ce qu'elle veut de moi. Mon cœur ne bat plus pour toi.
Eh bien, c'était des Palmas. Mon cœur ne bat plus. J'espère qu'il a un défibrillateur pas très très loin de chez lui, des Palmas. Et donc, nous sommes en direct, vous le savez, du Muséum d'Histoire Naturelle, dans la grande galerie avec, j'ai presque dire, cette arche de Noé qui est derrière nous. Qu'est-ce que ça vous inspire, d'ailleurs, Emmanuel Grunemann, puisque vous êtes primatologue, je le rappelle, avec votre ouvrage aussi, Demain, seul au monde, de voir ce cortège incroyable?
Bah, de la fascination, forcément. Ouais. En plus, j'ai eu la chance de faire mon travail de thèse dans l'enceinte de cette vénérable maison, donc il y a quand même un petit rêve d'enfance qui s'était réalisé. Mais c'est aussi aujourd'hui, avec le recul, c'est un peu en quelque sorte le testament d'Homo sapiens. Enfin, quand on voit déjà ici, il y a quelques espèces qui ont disparu d'ailleurs, qui sont exposées, hein. Et alors c'est pas être fataliste de dire ça, mais c'est
des
la
constats,
réalité,
hein.
Voilà.
L'UICN, en fait, c'est aussi votre travail, hein, François Le Tourneux.
Oui, c'est vrai que les espèces sont de plus en plus menacées. C'est vrai aussi que les équilibres globaux sont de plus en plus menacés. Dans cette maison, on travaille actuellement sur les oiseaux communs, ceux qui ne sont pas menacés, et on constate que près de la moitié d'entre eux ont disparu en 35 ans. Pas les espèces, mais leur nombre s'est effrité. C'est la même chose pour les papillons des jardins, c'est la même chose pour les pollinisateurs, vous en avez parlé tout à l'heure. Alors il ne faut pas être fixiste, il faut se dire qu'il y a des espèces, il en a toujours disparu. Au sous-sol de cette maison, il y a une belle exposition qui explique que les dinosaures ont laissé la place aux mammifères. Heureusement, sans ça, on ne serait pas là pour en parler, c'est pas parce que les espèces disparaissent beaucoup plus lentement qu'elles ne le font en ce moment que d'autres apparaissent, que c'est une raison pour détruire le tissu vivant de la planète, comme dit Robert Barbeau.
Il y a des gens qui s'en foutent complètement. Moi, j'ai vu ça. Parfois, mais qu'est-ce que ça peut faire? On a des espèces en moins. On va pas se mobiliser forcément là-dessus. En revanche, 10% d'actions en moins sur une banque. Alors là, tout le monde est vent debout. Mais qu'est-ce qu'on peut répondre à cela?
Il y a une grosse. Ça me paraît une question. Ça me paraît une question idiote. Je m'excuse, hein, Denis. Mais ça me paraît une question idiote. C'est un peu comme si on disait. Dans votre famille, vous êtes 30, s'il y en avait 4 qui mourraient cette année, ce serait pas un drame, vous resteriez 26, vous seriez très bien quand même, après tout, vous ne seriez pas seul. Je vois pas pourquoi on irait se poser la question de savoir jusqu'où on peut se faire du mal, sans se faire du mal vraiment trop. La vraie réponse, c'est qu'est-ce qu'on a à perdre à conserver une nature aussi riche que possible, une biodiversité aussi forte que possible, et à y être aussi bien que possible. C'est vrai que la différence entre notre réaction aux deux grands problèmes écologiques de notre temps, le changement climatique et la perte de biodiversité, sont un peu différentes. Ce qu'on nous propose pour tenter d'enrayer le réchauffement climatique, c'est quand même un peu des contraintes. Il faut se déplacer autrement, il faut se chauffer moins, il faut, etc. Et alors que ce qu'on nous propose pour la biodiversité, c'est finalement de manger meilleur, d'avoir plus d'oiseaux le matin, d'avoir plus de végétation autour de nous, d'être au frais l'été quand c'est la canicule, parce que si dans une ville verte, il fait 3 degrés de moins que dans une ville qui est minérale. Donc, on a de la chance, quand on s'intéresse à la biodiversité, ce qu'on propose, c'est pas des privations, ce qu'on propose, c'est de faire la fête. Et je rappelle à cette occasion que il est encore temps, que vous avez encore 2 jours pour aller vous promener, et que près de chez vous, dans votre presse quotidienne régionale, vous avez toutes les informations. Et sinon, sur www.faitesdelanature.com, vous trouverez des tas d'idées pour aller vous promener aujourd'hui et demain partout en France.
Vous avez très bien répondu, parce qu'il faut effectivement des arguments, et vous en avez. Laurent Piermont, on a aussi pas mal. Il vient de sortir donc un ouvrage au Seuil qui s'appelle « Agir avec la nature vers des solutions durables ». Alors, je rappelle que vous êtes docteur en écologie. Vous êtes aussi président de la Société forestière de la Caisse des dépôts et consignations, et puis aussi de la partie biodiversité. Donc, vous avez beaucoup réfléchi à cela. On ne va pas revenir totalement sur notre relation avec la nature, avec les différentes étapes, c'est-à-dire la Grèce classique, la représentation dominante du cosmos, le christianisme qui va bouleverser les cosmogonies antiques. Après, on a donc la révolution scientifique au XVIe siècle. Et au milieu du XIXe, quand même, des voix dénoncent l'impact du développement. Et puis alors, où en est-on aujourd'hui? Parce que ça, ça appelle quand même peut-être une action différente. Racontez-nous.
Bien oui, ce qui est intéressant, c'est que nos relations avec la nature évoluent selon des rythmes de temps très lents. Et il est intéressant de constater qu'au tournant du millénaire, finalement, notre relation a commencé à changer. Et nous nous sommes convaincus que non seulement nous devions la protéger, mais que ça ne suffirait peut-être pas et que nous étions obligés de la gérer pour la protéger.
Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot gestion?
Ça a été le début de l'origine de ma réflexion. Finalement, je me suis placé moi-même en gestionnaire, puisque nous gérons des espaces assez importants. Et qui parle de gestion, qui parle d'action, s'interroge tout de suite sur quels objectifs, quelles méthodes, quels moyens. Mmh. Alors, autant sur les méthodes, je crois que nous sommes relativement au point, même si nous avons pas mal à progresser, même si je ne suis pas du tout inquiet sur les moyens. Je crois au contraire que la modernité peut nous offrir les moyens financiers et techniques pour agir avec la nature. Par contre, nous butons terriblement sur la question des objectifs, qui est liée à celle des représentations que nous avons de la nature. Or, plusieurs représentations coexistent au sein de notre société, ce qui n'est pas très grave, mais l'important est au moins d'en avoir conscience. D'abord, issu de l'histoire que vous avez ébauchée très vite, deux grandes distinctions. Celle d'un organisme qui aurait ses objectifs propres, un organisme vivant qui a des valeurs de métier en lui. Deuxièmement, celle d'une construction vivante éventuellement, mais dans laquelle des lois doivent être trouvées, qui n'a pas de projet. Donc soit un sujet, soit un objet. Mmh. Ça change complètement l'approche. Si c'est un sujet, les réponses seront des réponses juridiques, c'est-à-dire le tel ou tard a des droits. Si c'est un objet, les réponses seront politiques, c'est-à-dire un débat politique entre acteurs de territoire, acteurs scientifiques, techniques, utilisateurs de la nature, etc., fixeront la position. Et sous cette distinction entre deux grandes visions, vous avez cinq visions qui sont pas contradictoires, mais qui sont en quelque sorte plusieurs étapes de la façon dont nous voyons la nature et qui dictent terriblement la façon dont nous allons agir. Je simplifie. La vision encore dominante, malheureusement dans le monde économique, dans une grande partie du monde économique, c'est celle d'une étendue inerte, malléable, dans laquelle il n'y a qu'à piocher. Mmh. Bon. Je crois que c'est une vision qui est en train de régresser.
On pompe un stock et là, on commence à se rendre compte depuis quelques années qu'on est ce qu'on appelle dans un monde fini.
Voilà. Oui. Deuxième vision qui est sans doute dominante, mais à mon avis incomplète, c'est celle d'une nature en équilibre, un organisme vivant dans lequel l'homme serait le grand perturbateur. À mon avis, une vision un petit peu courte. Troisième vision, celle d'une nature résiliente, finalement très optimiste. Faisons n'importe quoi, la vie l'emportera
toujours. Elle se débrouillera toujours.
Elle se débrouillera et ça ressurgira. Son contraire, la vision pessimiste, je dirais, c'est celle d'une vision chaotique, anarchique, dans laquelle il faut faire très attention et appliquer le principe de précaution absolument à chaque instant. Et il me semble que, et je crois que je rejoins François là-dessus, la vision la plus complète actuellement, c'est celle d'une nature constituée de systèmes en évolution permanente, en interrelation, et de cycles, eux-mêmes en relation avec les cycles des sociétés humaines. Et notre problème n'est pas tellement de protéger la nature, encore moins, je crois, de la gérer, parce que, malheureusement, quand on voit l'énorme profusion de la vie, maîtriser tout cela me paraît un peu un leurre, mais notre problème est peut-être plutôt de maîtriser les interférences complexes que nous créons entre nos propres sociétés, elles-mêmes en évolution, et les systèmes naturels en évolution difficiles à maîtriser.
Alors, sur ce regard sur la nature, on revient à vous, Laurent Pierre-Bond, dans quelques instants. Peut-être Dominique Bourg et puis Emmanuel Grunemann sur ce thème-là.
La représentation, disons, dominante aujourd'hui, en tout cas dans l'action, c'est effectivement celle d'une nature stock, hein, stock de ressources dans lequel on va puiser. Et puis on imagine que si telle partie d'un stock s'épuise, eh bien comme par enchantement, les techniques vont faire jaillir une solution. Donc avec ce genre d'idée qui est extrêmement répandu, chaque fois qu'on détruit une part de la nature, de toute façon, on va inventer du capital technique qui va se substituer à la part de la nature qu'on a réduite. Alors ça, c'est une conception complètement fausse. Déjà, l'idée de la technique qui est derrière est complètement absurde. Les techniques sont vraiment indispensables. Elles sont, si vous voulez, chevillées à l'âme humaine. Il n'y a pas d'humanité sans technique. Mais les techniques, ce sont simplement des médiations incontournables entre nous et le monde qui nous entoure et entre nous et les autres hommes, voire parfois entre nous et nous-mêmes. Et donc, non, on substitue pas du capital naturel, du capital reproductif technique à du capital naturel. On va simplement chercher avec d'autres techniques une autre part de capital naturel qu'on va pouvoir exploiter. Et regardez, par exemple, pour les métaux aujourd'hui, eh bien, on exploite à peu près presque tous les deux tiers des métaux possibles, la table de Mendeleïev. Et puis certains, on les exploite que depuis une quinzaine d'années, hein, le tantal, l'indium, les terres rares, etc. Et on commence en quelque sorte à tout manger. On va avoir de moins en moins de possibilités de substitution, d'autant que chacun de ce type de minéral a des propriétés très spécifiques. Technologiquement, ils ne sont pas substituables les uns aux autres. Et on finit, passez-moi l'expression, mais par tout bouffer. Oui. Et on n'a plus la possibilité, en quelque sorte, de jouer. Et c'est vraiment la situation. On en est, elle devient absurde. Alors, croire, si vous voulez, qu'on va résoudre nos problèmes par une espèce d'innovation technologique incessante, c'est absurde. C'est d'autant plus absurde qu'en général, bien, cette innovation, elle va créer des opportunités de consommation nouvelles et auquel cas on ne gagne rien. Donc il y a une espèce de leurre avec lequel on essaie de nous entretenir et ça, c'est très dangereux.
Emmanuel Grunemann, puis après François Le Tourneur.
Oui, c'est exactement ça. Et en fait, il y a cette pensée que la technologie est vraiment la solution, la baguette magique qu'on va utiliser. Mais en réalité, on avance juste vers le précipice. Et c'est vrai qu'on est vraiment en train de tout bouffer, comme vous dites. Et sauf que ce qu'on oublie, c'est que la nature, il y a un équilibre dynamique. Enfin, il y a des équilibres dynamiques. Il y a une part de résilience, etc. Mais nous, on risque d'être les plus grands perdants de cette histoire. En fait, on est acculés de plus en plus au bord du précipice et on va bientôt tomber dedans. Et c'est là aussi où les politiques ont véritablement un rôle à jouer qu'ils ne jouent pas. Quand on voit, par exemple, ne serait-ce qu'en France, ce qu'a donné la version votée du Grenelle 2, on va juste prendre l'exemple, par exemple, des pesticides, où maintenant le retrait d'un pesticide est conditionné notamment par les impacts environnementaux, mais aussi socio-économiques de son retrait. Donc là, on marche totalement sur la tête. C'est vraiment, c'est n'importe quoi.
Vous dites qu'on n'a pas changé de paradigme. Bon, à côté de ça, la technique nous a quand même permis aussi de nous affranchir un certain nombre de choses.
Ah, bien sûr, c'est évident.
Hein, bien d'accord. Donc, François Le Tourneux.
Oui, Laurent a dit la nature sujet, la nature objet. Et moi, j'ai envie de dire et la nature projet. La nature projet parce que il y a une loi dans l'évolution. On revient pas en arrière. Donc on n'est pas en train de se dire qu'on a fait fausse route, qu'il faut revenir sur nos pas et qu'il faut repartir d'un état supposé bon. Parce qu'il y a quand même quelque chose dans ce qu'a dit Dominique de très très important. Il y a très peu de temps que l'espèce humaine s'est délibérément attaquée au stock. Pendant des millénaires, des dizaines de millénaires, des centaines de millénaires, elle a vécu sur le flux, comme les autres espèces vivantes. Mmh. Quelquefois, elle bouffait trop de quelque chose. Ça se reconstituait pas, elle mourait de faim ou elle changeait d'endroit, puis ça se reconstituait,
et
ainsi de suite.
Et on était quand même 200 millions de mémoire à l'époque de Jésus-Christ, mais, un milliard en 1800, donc voilà.
Dans ce qu'a décrit Dominique, il y a que 200 ans que ça se produit, le charbon, qui est absolument. Le charbon et le pétrole, qui sont tout ce que la biodiversité a fabriqué comme stock depuis l'apparition de la vie sur Terre. Mais tout ça, on aurait mis 250 ans ou 300 ans à l'épuiser complètement. C'est quand même une drôle de manière de se comporter. Alors, oui, il y a un projet. Alors, je partage pas tout à fait la position de Dominique sur la question de l'évolution technologique, ou plutôt, je crois au progrès presque autant que Claude Allègre, mais pas du tout le même.
Ah bon?
C'est-à-dire que ce qui est toujours idiot dans le progrès, c'est quand on a une vision linéaire du progrès. Les gens qui se sont passionnés pour la machine à vapeur au moment où le moteur à explosion était inventé, Il faisait des progrès considérables dans le moteur à vapeur. Et c'était ailleurs que ça se passait. Et je pense qu'aujourd'hui, déjà, pour l'agriculture, pour nourrir les 9 milliards d'hommes qu'on sera, c'est pas l'agriculture d'aujourd'hui, c'est pas perfectionner l'agriculture d'aujourd'hui qui est la bonne solution, mais c'est quand même progresser. Si on est 9 milliards sur Terre, on sera quand même l'espèce vivante la plus invasive qu'aura jamais connue la vie sur Terre. Donc on ne peut pas faire comme si on devait se faire léger, se faire petit. On se fera pas léger et petit. On devra continuer à intervenir. Mais on continuera à intervenir avec une autre forme de progrès, un progrès réconcilié. Mais on aura besoin de technologies qui ne seront pas les mêmes.
Dominique Gourd.
Alors, je voudrais juste rectifier deux petites choses. Premièrement, effectivement, ça fait 2 siècles qu'on a commencé à entamer le stock. Mais disons, c'est depuis les années 50 qu'on a quand même passé carrément un seuil quantitatif. Hein. Donc c'est très récent. C'est extrêmement récent. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, non, je partage tout à fait ce qu'a dit François. Alors, c'est moi qui ai dû me mal faire comprendre. J'ai bien dit qu'il n'y avait pas d'humanité sans technique. Il n'y a pas d'humanité sans progrès technique, d'une certaine manière. Et retourner dans le passé, on crève tous de faim.
Oui.
Et on laisse un désert derrière nous. C'est évidemment pas ce qu'il faut faire. Mais il faut repenser autrement le progrès technique. Alors moi, je pense qu'effectivement, par exemple, avec de l'agroécologie, on va utiliser les savoirs qui sont ceux de l'écologie et autres, mais d'une certaine manière aussi pour augmenter des rendements. Il ne s'agit pas encore une fois de se tourner vers le passé. Nous sommes morts si nous faisons ça. Mais il s'agit de penser le progrès technique d'une façon moins naïve, moins narcissique et moins stupide.
Alors Laurent Piermont, justement, là une espèce de pédagogie de l'action. Donc quelle est votre réflexion, peut-être sur ce qui vient d'être dit, si vous avez de compléter, et puis de nous dire comment on peut fonctionner aujourd'hui quand on gère maintenant cette biodiversité, parce que c'est quand même votre boulot.
Je voudrais revenir sur la question de l'action et de la question de comment composer avec la nature. La plupart des activités humaines sont liées à la nature, y compris, François, le nucléaire est issu d'une...
C'est l'uranium.
D'une réaction chimique dans laquelle intervient une bactérie. Donc la nature, toutes nos activités, ou presque, sont liées d'une façon ou d'autre à la nature. Notre enjeu, c'est comment concilier modernité et respect de la nature. Bon. Si on se penche sur les différentes activités humaines, économiques, on s'aperçoit qu'on peut les classer en 3 catégories. On a déjà fait un progrès. Première catégorie, les activités qui exploitent des ressources renouvelables, telles que l'agriculture, la pêche, la forêt, etc. Là, l'enjeu, c'est l'exploitation durable, c'est-à-dire ne pas pomper plus que le stock ne peut générer. Mais l'erreur, le piège qui nous attend là, c'est de considérer ça comme une machine qui génère un certain bénéfice chaque année, alors qu'en vérité, les systèmes naturels eux-mêmes sont en mouvement, donc il faut avoir une attitude flexible. Et l'ennemi, c'est la norme fixe. La solution, c'est la norme flexible. Deuxième catégorie, plus difficile à appréhender, ce sont les activités qui détruisent des biens naturels définitivement ou de façon très lourde. Ça, ce sont toutes les activités liées à la ville, les infrastructures, le transport, les aéroports, les autoroutes, etc. Là, il me semble que la réponse est évidemment d'être plus modéré dans nos demandes, d'être moins intrusif dans la nature. Mais quand même, nous continuerons bel et bien à construire quelques voies ferrées. Le Grenelle de l'environnement vient de décider de créer 2000 km de ligne TGV. Ces 2000 km, nous n'allons pas les suspendre en l'air.
Du côté
des
Pays Basque, entre Bordeaux et Toulouse, ils n'aiment pas trop. Quoi,
il y aura forcément des impacts. Il faudra les réduire au maximum. Mais là, je crois que pour cette catégorie, la réponse est fondamentalement dans la compensation. Compensation au sens de restauration, de réparation. Je n'ignore pas, Dominique, que l'original est bien mieux que la copie.
Oui.
Mais pas de copie, c'est beaucoup moins bien que la copie.
Alors, la compensation, mais concrètement, que l'on comprenne bien, qu'est-ce que c'est? On compense ailleurs, on fait quoi?
Le principe, c'est de compenser le plus près possible, le mieux possible, le plus proche, à tous les sens du terme. À CDC Biodiversité, nous avons notre comité scientifique a établi une liste de critères qui tourne autour des espèces, compenser les espèces, compenser les espaces, compenser les liens entre les uns et les autres, en termes de services rendus par ces espaces. Bref, sur un ensemble multicritère, essayer de reconstituer le mieux les choses pour qu'il n'y ait pas de perte nette. Donc essayons de vivre ces deux principes, certes inatteignables, mais qui sont des principes qui ne sont pas si mauvais pour l'action. pas de perte nette, compensation intégrale des impacts par celui qui les a causés. Troisième catégorie d'activités, à mon avis la plus intéressante, celle de toutes les activités qui ont affaire avec la nature sans nécessairement la détruire. C'est tout le tourisme, tout ce qui est l'alimentation en eau, tout ce qui est lié y compris l'hydroélectricité au fil de l'eau. Bon, là les enjeux, c'est dans un monde où la création de richesses a longtemps été liée à la destruction de la nature, de faire de la synergie. Donc on arrive à des notions, par exemple, d'équipement à biodiversité positive.
Alors là, on va prendre un exemple qui est celui de la ville de New York, Emmanuel Grünemann, parce que il y a quand même eu la ville de Munich qui avait fait cela, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, on a de l'eau potable sous les pieds, et c'est une affaire qui a quand même pris une vingtaine d'années, donc ils ont converti les agriculteurs au bio. Et maintenant, ils en ont que des bénéfices, parce qu'après, ils ont eu toute une économie du bio qui est partie. Donc, il n'y a plus de pollution et ça se passe très bien. À New York, qu'est-ce qu'ils ont fait, Emmanuel Grünemann ?
Oui, c'est un exemple très intéressant parce que justement, ça illustre tout ce qu'on vient de dire auparavant, qu'on peut aller de l'avant, utiliser les techniques, utiliser la technologie, pour tout en respectant la biodiversité. Et la ville de New York s'est retrouvée face à un constat, son eau n'était plus potable, du fait notamment de l'expansion des terres agricoles et de l'agriculture, de l'agro-industrie dans la zone des montagnes Catskills, qui sont en fait les montagnes où naissent toutes les rivières et les fleuves qui viennent abreuver la ville de New York. Et donc s'est posée la question de construire une immense centrale d'épuration des eaux, dont le coût était estimé entre 6 et 8 milliards de dollars, plus 500 millions de frais d'entretien annuels. Et finalement, c'est pas du tout l'option qui a été choisie par la ville de New York, qui a décidé de restaurer les écosystèmes autour des montagnes Catskills, donc de restaurer en fait tout le fonctionnement de filtration des eaux par les végétaux en particulier. Et le coût en a été très réduit puisque c'était 1 milliard de dollars. Et aujourd'hui, les 9 millions d'habitants de la ville de New York ont de l'eau potable au robinet.
Ça leur aurait coûté quand même 6-7 milliards de dollars, me semble-t-il.
Tout à fait. Hein,
avec station d'épuration. Et là, plus que 1 milliard de dollars.
Donc en plus, voilà, il y a aussi un impact économique qui n'est pas négligeable. Donc tout ça est totalement lié. Et effectivement, c'est pas un retour en arrière que de protéger la biodiversité, mais c'est aller de l'avant, trouver des nouvelles solutions et qui préservent aussi cette nature qui nous entoure, qui nous est utile.
Eh bien, merci d'être aussi convaincants les uns et les autres. Je ne sais pas s'ils sont anglais ou américains, c'est pas grave, c'est Rodeo and Shadows.
You wish the earth would swallow you up to live under the stars above. Underground with beautiful shapes and shadows and shadow hours. Move both hands very slowly across the screen, a silhouette appears suddenly through the beam. Your fingers are the most nimble I've ever seen. The light is too faint to see your face, but I can feel that you are the rain. You wish the earth would swallow you up to live in the best stars above, and underground with beautiful shapes and shadows. Can all King Kong are a clown, and not Mother Heaven and her dog. Light is too faint to see your face,
but I can feel that you are a bride. You wish the abuse swallow you out to live under the stars above, and that run the beautiful shapes and shadows and shadow laws. You wish the abuse swallow you out to live under the stars above,
à la radio, c'est bien, ça gratte pas, ça pique pas, et puis y a pas besoin de laver les gosses à la sortie. Merci CO2 mon amour et Denis Chessou.
Voilà, je sais pas si elle a tout saisi, mais en tout cas c'est pas grave, hein, on tente quand même avec cette fête de la nature de faire passer quelques idées sur la biodiversité, sur ces manières de penser, là aussi peut-être très différemment, Dominique Bourg, on est toujours confronté entre du court terme, on le voit en permanence dans l'actualité, et ces affaires qui sont aussi des affaires de long terme, entre du local, entre du global, qu'est-ce qui peut nous rendre, et on a envie de l'être, parce qu'on est quand même dans cette émission dans une philosophie d'action, tout en ne rasant pas en disant bien quand même ce qui se passe, mais donner envie d'adhérer à cette affaire-là et de construire un avenir un peu commun.
J'espère d'ailleurs qu'on va arriver à le construire, cet avenir commun. Il faut y croire le plus possible. Simplement, je crois qu'effectivement, ce n'est pas la technique qui est en cause aujourd'hui. Ce n'est pas le problème. La technique, c'est l'homme. Si vous remettez totalement en cause la technique, vous devenez ipso facto misanthrope. Le problème, c'est qu'elle est asservie à une pensée du court terme, locale, extrêmement individualiste. Alors effectivement, avec ces trois choses-là, on va franchement à la catastrophe.
Bon.
Et donc maintenant, on a atteint une puissance telle qu'on ne peut pas ne pas chercher à anticiper les effets de nos choix technologiques. On peut réfléchir, c'est d'ailleurs une des vocations du principe de précaution, de ne retenir que les techniques qui ont un intérêt pour tous. Et pas simplement pour un petit nombre, on va permettre un retour très rapide sur le capital et puis socialiser ensuite tous les dégâts, toutes les pertes. C'est avec ce genre de logique qu'il faut rompre. Et ça, c'est vraiment capital. Donc en ce sens-là, par exemple, effectivement, la compensation a tout son sens. On va dire c'est une demi-mesure. Non, on n'a pas de choix. On est embarqué maintenant dans cette affaire et il faut chercher à réduire les côtés les plus destructeurs, à décélérer sur ce plan-là et puis à réaccélérer dans d'autres directions.
Laurent Piermont, donnez-nous un exemple de ce qui a fonctionné. Alors, je ne sais pas si c'est de la compensation ou bien si c'est du génie écologique qui est rentré dans cette affaire-là. Mais là, par exemple, du côté de la Camargue, parlez-nous de ce qu'on appelle le COSUL. Qu'est-ce que c'est le COSUL ?
Denis, des choses qui ont bien fonctionné, il y en a tellement. Je voudrais vraiment mettre une note optimiste dans cette affaire. Nous avons pêché, et a été pêché, malheureusement il en est mort, le premier saumon dans la Seine il y a quelques années. Mm-hmm. Il y a 30 espèces de poissons dans la Seine, alors que c'est un cloaque il y a 50 ans. 30% du territoire national est protégé. La loutre.
Alors, attention,
la marge,
pas intégralement, parce que les parcs naturels régionaux ne sont pas non plus des.
Hein. 20% fait l'objet d'une protection forte, 30% fait l'objet de mesures de protection. La trame verte et bleue est une bonne solution. La martre n'est plus en danger, non plus que le butor. Bon, il n'y a pas que. Tout ne va pas.
Les chamois vont très bien dans les Alpes, les bouquetins, les mouflons.
Même si ça signifie aussi en partie peut-être le témoignage d'un certain désordre écologique.
Oui,
mais tout ne va pas que mal. Bon, concrètement, dans la Croix, il y a un écosystème exceptionnel qui s'appelle le COSUL, une grande qui a été créée par 6000 ans de pâturage et de fréquentation commune des bergers et de la vie faune et d'une faune très spéciale. Cet espace exceptionnel, situé à proximité d'une grande ville qui est plat et ensoleillé, c'est évidemment une terre à prendre. Et les 50 000 hectares de coussous qui existaient encore au milieu du XXe siècle sont réduits à 14 000 hectares. Bon. Dans cette zone, des vergers industriels se sont installés et l'un d'entre eux a fait faillite pour diverses raisons. Et là, s'est installé un projet de territoire regroupant les élus, les associations d'écologistes, les agriculteurs, les scientifiques, les administrations qui considèrent que là, les moutons et les outardes et les gangakata, qui sont la faune locale, valent mieux que des vergers industriels. Ce n'est pas que le mouton vaut plus que le brugnon, mais là, il y a un projet de territoire partagé. Alors, on nous a demandé de reconstituer la dynamique naturelle du coussoul. Nous avons réalisé d'énormes travaux et à l'issue de ces énormes travaux, la dynamique végétale commence à se reconstituer. Ce qui est intéressant peut-être à voir, il faut parler un peu d'argent. Protéger un espace naturel, ça se chiffre en dizaines d'euros par hectare et par an. Constituer une infrastructure écologique à peu près de qualité, ça se chiffre en centaines d'euros par hectare et par an. Reconstituer, recréer de la nature comme nous l'avons fait là, ça se chiffre en milliers d'euros par hectare et par an. Donc nous avons largement plus intérêt à ne pas détruire qu'à détruire pour reconstruire. N'empêche que, ceci étant dit, nous avons entamé les travaux de réhabilitation écologique avec l'Institut méditerranéen d'écologie, avec le Centre d'écologie de Provence, avec toute une équipe de gens incroyablement motivés et compétents. Et au bout d'un an, nous avons fait le comptage la semaine dernière, donc c'est un scoop que je vous livre, nous avons 30 outardes et 4 gangakata, qui est ce petit animal des steppes, qui viennent maintenant fréquenter notre espace. Donc l'action paye.
Oui. Et vous avez donc pas mal d'exemples dans votre ouvrage, donc je le rappelle, Agir avec la nature. Emmanuel Grudemann, vous voyez différentes civilisations. Lorsque l'on parle de biodiversité, peut-être penser aussi à la biodiversité culturelle, enfin c'était sous-entendu dans pas mal de propos, mais que constatez-vous?
Oui, et c'est vrai qu'on oublie trop souvent, ou en tout cas le grand public oublie souvent que la biodiversité, c'est aussi l'homme, et c'est aussi toute cette diversité des cultures, diversité des langues, et qui est aussi en train de s'éroder en même temps que les animaux, les espèces animales, les espèces végétales et les écosystèmes. Et comme le disait Dominique tout à l'heure, à partir des années 50, en fait, on a complètement, enfin, c'est un rouleau compresseur qui s'est mis en marche avec une uniformisation des modes de production, des modes de culture. Et en fait, ces cultures aussi sont broyées par ce système. Et sur le terrain, on constate exactement ça. J'ai eu la chance de rencontrer des pygmées baka au Cameroun et qui sont conscients de ce qu'ils vivent et qui sont conscients de vivre l'épilogue de leur propre culture. Et or, ils ont énormément de choses aussi à nous apprendre dans leur manière d'utiliser cette nature et justement dans la manière de la gérer aussi, puisque ce sont des chasseurs-cueilleurs semi-nomades et qui, pour ne pas épuiser leur milieu, quand ils voient la disponibilité en ressources commencer à chuter un petit peu, se déplacent beaucoup plus loin pour permettre à la forêt de se régénérer. Et aujourd'hui, les grandes entreprises forestières notamment sont en train de mettre à sac ces forêts dans lesquelles les pygmées baka ne peuvent plus vivre. Et c'est vrai qu'on oublie trop souvent le destin de ces populations qui subissent aussi de plein fouet cette mondialisation.
Je rappelle le titre de ce livre, hein, Demain seul au monde, l'homme sans la biodiversité, donc Emmanuel Grudemann aux éditions Calman Levy. Pour terminer, je reviens sur cet élan dont on a besoin, François Le Tourneux. Énormément de monde dans cette fête de la nature. Les gens sont quand même bien conscients de cette affaire-là. On n'en parlait pas il y a encore 10 ans, 15 ans, 20 ans. Hein, c'était encore tout à fait embryonnaire. On avance, on a bien compris dans un sens avec un point d'interrogation, c'est nous de construire cet avenir commun, une fois de plus dans cette maison commune qu'est la Terre, mais donnez-nous quelques pistes qui vont nous faire agir peut-être.
Oui, on est dans une aventure qui est passionnante. Ce qui est très encourageant, c'est que tous ceux qui font ce que dit Laurent, c'est-à-dire qui travaillent pour la nature, tous les réseaux qui organisent des manifestations de la fête, mais aussi les agriculteurs biologiques, les gens comme ça, ils disent c'est drôlement dur, c'est des méthodes compliquées, mais qu'est-ce que c'est passionnant, enfin on redevient intelligent, enfin on arrête de mettre le bidon vert le lundi et le bidon jaune le vendredi, enfin on se réintéresse à l'agronomie, on se réintéresse à la vie autour de nous. Et notre objectif au fond, c'est pas tellement d'éviter, de restreindre, c'est de dire que nous voulons avoir dans 300 000 ans une terre vivable pour des hommes heureux. Après tout, ça passe par des gestes très simples que chacun peut accomplir sur son balcon, dans sa manière de consommer ou non de l'huile de palme en quantité, en achetant ou non du tech pour ses meubles de jardin, en faisant un petit peu attention à ne pas faire les choses qui détruisent, et en faisant un petit peu attention, comme l'a dit Laurent, à tout ce qui peut renforcer toute cette richesse de la nature autour de nous, ça rend optimiste et espérons que la nature nous supportera encore un petit moment.
Alors on le dit souvent dans cette émission, il y a deux pollutions là qu'il faut éviter, c'est à la fois l'indifférence, c'est pas le cas, et la résignation donc non plus. Un grand merci donc à vous, merci à vous Dominique Bourg. Je peux citer le dernier ouvrage que vous avez fait paraître avec Philippe Roch, qui a été aussi notre invité, Crise écologique, crise des valeurs, Agir avec la nature, c'est Laurent Piremont, et puis donc Demain seul au monde d'Emmanuel Le Grunemann. Vous allez aller dans le Jardin des Plantes là après l'émission, hein, c'est ce qu'on va faire là tous. Eh ben, c'est formidable. Voilà, merci à tous. Merci à la technique, à Pierre Quintard, à Pascal Baudin, à Tanguy Le Corneux et Jean-Marc Clos, à Marion Lelay et Jean-Christophe Pinaza, et donc Fabrice L'Aigle qui réalisait l'émission. Alors beaucoup d'éléments sur le site de CO2 Mon Amour signé Anne Gouzon. Et dans quelques instants, eh bien, on va poursuivre le voyage avec les aventuriers de Fabienne Chauvière, rencontre avec un scientifique, en l'occurrence au Muséum d'Histoire Naturelle. Ce sera Claire Villemant, qui est donc spécialiste du frelon asiatique, ouh, il est sympathique celui-là, et des abeilles, donc amis des hyménoptères. Vous écouterez Fabienne Chauvière et les aventuriers de Nichessou. Je vous souhaite un excellent week-end. Il est 15h.